Radio Spirale. Écrivain d'origine haïtienne, Anthony Phelps vit à Montréal depuis 1964. Pierre Neveu s'entretenait avec lui dans le cadre de cette rencontre d'écrivains du CRILC qui se tenait à la librairie Olivieri en septembre 2010.
Bien, alors, bienvenue. Je vois que vous êtes venus très nombreux, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Pour cette soirée rencontre, donc une autre de ces soirées rencontres avec des écrivains qui sont organisées par le centre, le CRILC, le site de l'Université de Montréal, du Centre de recherche interuniversitaire en littérature et culture québécoise. Alors donc, c'est un grand plaisir de recevoir ce soir Anthony Phelps, qui est une des figures, comme vous savez, majeures de la littérature et de la poésie tant haïtienne que québécoise depuis les années 60. Alors rapidement, faire le parcours d'Anthony Phelps, ce serait trop long, et de toute façon, on va le refaire un peu durant l'entrevue, à travers des lectures et aussi certaines questions. Mais quand même, né à Port-au-Prince en 1928, d'origine très métissée, il y a une longue liste à faire de ses origines, depuis la Russie, l'Allemagne, l'Afrique, etc. Études aux États-Unis, on ignore souvent qu'il est venu au Québec au tout début des années 50. Moi, je ne le savais pas avant tout récemment, mais on en reparlera. Il faudrait sûrement mentionner un trait de son parcours, c'est la très grande diversité de ses activités, de ses métiers et professions. Au départ, il était chimiste, spécialiste en béton. Il a travaillé à la construction d'un barrage en Haïti.
Qui existe toujours.
Qui existe toujours. Bon, il insiste, il existe toujours. Il n'est pas tombé. Il n'a pas cédé sous la pression, c'est très important. photographe, journaliste, comédien, homme de théâtre, il a fait des mises en scène, réalisateur à la radio. Vous savez peut-être aussi, il a été 20 ans à la salle de nouvelles de Radio-Canada, ici à Montréal. Caméraman, etc. Bon, c'est très varié. Il fonde en 61, donc sous la dictature de Duvalier, le groupe Haïti littéraire, avec plusieurs amis poètes, dont plusieurs sont venus par la suite au Québec. Ce sont, comme vous vous en doutez, des années difficiles, où notamment la radio classique à laquelle où il travaille, il a réalisé plusieurs émissions, et la cible à répétition là des Tontons Macoutes. Il arrive à Montréal en 1964, il est alors interdit de séjour en Haïti, et ses amis, nombreux, le rejoignent. Alors là, c'est connu dans l'histoire de la littérature québécoise. C'est arrivé de nombreux écrivains haïtiens, j'en nomme quelques-uns, plusieurs poètes, Serge Le Gagnard, Villard Denis, surnommé Davertige, Roland Morisseau, René Philoctète, d'autres écrivains aussi qui arrivent vers la même époque, Gérard Étienne, Émile Olivier, et enfin, on pourrait allonger la liste. Il y aura une brève aventure culturelle à Montréal, le Perchoir d'Haïti. C'est un événement qui a été bref, mais quand même très connu au centre-ville de Montréal, un lieu où les poètes haïtiens se sont regroupés, mais où aussi plusieurs écrivains québécois se sont trouvés à rencontrer pour la première fois ce groupe de poètes haïtiens. Je pense à Gaston Miron, Nicole Brossard, Michel Beaulieu, plusieurs autres. Sa carrière littéraire est marquée sûrement par un titre en particulier au début qui le fait vraiment connaître. Il avait déjà publié plusieurs titres auparavant, mais « Mon pays que voici » en 1968 est un livre très remarqué, on peut dire une sorte de grand poème sur Haïti. Un livre qui fait aussi l'objet d'un enregistrement sur disque, et Anthony Phelps va d'ailleurs faire plusieurs enregistrements de disques par la suite, de ses propres œuvres, mais aussi d'œuvres parfois d'autres poètes. Ce livre, Mon pays voici, a été réédité chez Mémoire d'Encrier en 2007. Depuis là, il publie très régulièrement non seulement de la poésie, j'y reviendrai, mais des romans. Je mentionne notamment Mémoire en Colin Maillard, Anouche et Nouvelle Optique en 76, Haïti, Haïti avec Gary Klang, qui est parmi nous, je crois, ce soir. Et plus récemment, La contrainte de l'inachevé en 2006, finaliste au prix du gouverneur général. Et encore plus récemment, en 2009, Le mannequin enchanté, un recueil de nouvelles chez Leméac. Alors, dans l'œuvre poétique, je mentionne quelques titres. La Bélière Caraïbe en 80, Orchidée Nègre en 87, Immobile voyageuse de Picard et autres silences en 2000, Femme Amérique en 2004, Une phrase lente de violoncelle en 2005. Alors, Anthony Phelps a été fréquemment invité à l'étranger. Il a aussi résidé à l'étranger, je veux dire à l'extérieur et d'Haïti et du Québec, c'est-à-dire plus précisément au Mexique, à San Miguel de Allende, où qui est devenu un lieu de son, présent dans son œuvre, et aussi plus récemment à Séville, en Andalousie. Donc, il a beaucoup fréquenté la langue espagnole. Je termine en soulignant aussi sa très grande présence sur la scène littéraire québécoise. Je pense que tous les gens qui fréquentent le milieu de la poésie, notamment, ont vu Anthony Phelps au Festival de Trois-Rivières, à Métropolis Bleu, au Festival international de littérature, au Marché de la poésie, etc. Je mentionne enfin qu'il a gagné deux fois le prix cubain Casa de las Américas. Alors, c'est très bref et il y aurait beaucoup de choses à dire. De toute façon, on va revenir sur certains de ces points-là. Alors, je donne la parole à Anthony. Il va y avoir assez fréquemment dans notre échange des lectures, donc ils vont être intercalés avec des moments de dialogue. Alors, je lui laisse la parole pour nous lire quelques poèmes.
Merci, Pierre. Tu es bien gentil. Je vais lire trois poèmes. Il y a beaucoup de papier sur la table, mais il le faut. J'ai pas tout ça en mémoire. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Ma ville principale, c'est un extrait du recueil « Même le soleil est nu ». Ma ville principale où les aveugles jouent à la courte paille, la main gantée de porc glacé. Ma ville principale est un berlingot. Visage peint de signes de piste, les aveugles rêvent d'une parole sans guillemets, au verbe lent de serpentin. Le cœur curieux, plein des pépites d'Ali Baba, et gonflé de l'audace des petits pains de l'Évangile, les aveugles rêvent de hautes herbes. Ma ville principale est un berlingot. Ma ville principale où les aveugles jouent à la courte paille pour savoir qui sera mangé au long festin des larmes mortes. Un extrait de Points cardinaux, ce premier recueil que j'ai publié au Québec, entièrement consacré à Montréal, cette ville qui m'a accueilli en 1964. Montréal, fille de verre, fille d'acier, mais c'est le feu qui fait le verre. Mais c'est le feu qui fait l'acier. Montréal, je ne suis pas ambassadeur. Dans mes bagages, point de présent d'un chef très vénérable et honoré, ni lettres à cachet m'accréditant auprès de toi. J'arrive porteur de mon seul titre de poète, accepte-moi avec le rythme de mes ancêtres, et ma chaleur plus forte que la tienne n'écommodera point ton cœur. De Une phrase lente de violoncelle. Il était une fois une phrase lente de violoncelle. Aujourd'hui, de libre index, je t'ouvre mon livre. L'écorce de ces pages bat encore des mains de joie, car il était une fois une phrase lente de violoncelle. Par les chemins sans étoiles, mais de lumière mienne, rêvant dans ce hamac où je n'ai plus rêvé voici 100 ans et plus, ma forme se détache des fibres et des rythmes pour que le crépuscule chante encore sur mes mains jardinières. Dans le café au lait, caillé de l'errance toujours grave à... Toujours, grave douce présence d'une clé de fa, discrète médiation du poème. J'étais cet enfant qui traversait les songes à gai. Il tricotait son âge en faisant 1000 détours par des villes inédites. J'étais cet enfant qui courait au-delà de son ombre et rêvait d'invention. Dans le jardin, au Margouya, quand s'endormait la fenêtre, fermant les yeux sur mon visage, la voyante aux lèvres peintes cassait la cruche scellée de mon âme. La délivrance de l'eau ravivait la douceur de mes paupières. J'étais cet enfant qui préférait la montagne. Cascade et bassin faisaient miroir au ciel. Dans ces jeux partagés, tous les poissons devenaient solaires. Une tige de bambou était l'épée de D'Artagnan. La chevelure des Ulysses flottait au lampadaire et Mandrake s'enveloppait dans sa cape de magicien. J'étais cet écolier aux doigts de musicien, sous sa baguette rêveuse, la mémoire du bois chantait dans son pupitre chansons de voile et de pirate. J'étais cet écolier, à la main dessinatrice. Sur le poli de son cartable naviguaient des petits bateaux d'eau douce, bateaux de douce légende. Aujourd'hui, lorsque le jour libère les faux plis de la nuit, des plus hauts mâts aux plus profonds coraux, en rondes et blanches, une phrase lente de violoncelle prend à son compte les bons mensonges de l'innocence. Il était une fois une lente phrase de violoncelle.
Merci, Anthony. Alors, je pense qu'on entend tout de suite c'est la profondeur et l'ampleur de ce lyrisme qui est celui d'Anthony dans cette très belle évocation de l'enfance. Et je signale, c'est quand même un livre assez récent, là, une lente phrase de violoncelle. Une phrase lente de violoncelle, c'est 2005. Donc, c'est une évocation de l'enfance à très grande distance. Ce violoncelle, est-ce que c'est une métaphore ou si ça a un fondement dans la réalité de ton enfance haïtienne?
Non, c'est pas une métaphore, c'est tout simplement une affection particulière pour cet instrument. Et mon professeur de piano était un violoncelliste. J'ai donc pu voir et toucher cet objet chez lui. J'ai malheureusement abandonné le piano pour le football.
C'est sûr, comme on a parfois dans les évocations de l'enfance, l'image un peu d'un paradis perdu. Ce qui me frappe, c'est que t'es né à Port-au-Prince, mais les images de ton enfance sont plutôt des images de la nature, de la campagne. Est-ce que ça tient au fait que tes souvenirs sont restés plus forts pour les moments d'été, de vacances, ou parce que je sais que vous alliez à l'extérieur de Port-au-Prince?
Oui, on allait à l'extérieur, mais il y a une chose quand même, comment on dit, c'est naturel parce que l'enfance n'habite pas forcément une ville. Mm-hmm. D'ailleurs, elle ne peut pas. L'enfance habite plutôt un quartier, un espace de jeu, un espace de rencontre. Donc, un coin de montagne ou de plage. Le quartier où je suis né, où j'ai grandi, était très beau, de belles maisons, des jardins. On ne montre jamais cette image d'Haïti dans les reportages à la télévision, à croire que Port-au-Prince a toujours été un immense bidonville. Donc c'est ça. L'enfance ne peut pas parler d'une ville. Je ne pense pas. L'enfance c'est plutôt quelque chose de clos. C'est un cercle, l'enfance. C'est pas une ville. Une ville est toujours est plutôt éclatée.
Oui. Pas d'une ville, mais d'un quartier, d'une ville aussi.
Un quartier, tu sais.
Ouais. Ce Port-au-Prince, effectivement, les images qu'on en a aujourd'hui, c'est presque toujours un bidonville, c'est cité soleil. C'est bon, etc. Qu'est-ce que c'était Port-au-Prince avant Duvalier? Disons, ce Port-au-Prince que toi, t'as connu dans les années 30, 40, au début des années 50.
Je veux dire, quand j'ai quitté Haïti en 1964, Port-au-Prince avait 250 000 habitants. Il y avait de la pauvreté, certes, mais pas l'extrême misère comme maintenant. Mm-hmm. Tu vois, c'était une ville construite pour accueillir 200 000 personnes, pas 2 millions. Mm-hmm. Dans les différents quartiers, on se connaissait, on se saluait. Là, maintenant, je vais à Port-au-Prince, je ne connais personne. Je vais dans mon ancien quartier de Turgeot. Mm-hmm. Je passe et dis à qui blanc ça. Tu vois, c'est... Mm-hmm. Je suis rien. Mm-hmm. Et les gens qui vivent là, ils ne se connaissent pas forcément parce que, tu vois, Montréal a combien de milliers de gens? On ne se connaît plus. Avant, dans les années 64, ici, les gens se saluaient parce qu'il y avait une certaine habitude, il y avait une présence qui n'était pas une présence d'une année dans un appartement, mais c'était 2 ans, 5 ans, tu vois. Donc on avait l'habitude de se croiser, et puis il y avait cette politesse qui a disparu aussi.
Oui, ça c'est sûr. Alors, bon, j'ai parlé tout à l'heure dans ma présentation de tes études rapidement, de ta première profession, là, le chimiste spécialiste en béton. Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves, je crois, justement pour étudier aux États-Unis. Tu étudies à ce moment-là la chimie,
oui,
au début des années 50.
Non, c'est ça, oui.
Mais là, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que j'apprends qu'à la même époque, tu es en contact avec la poète Rina Lanier au Québec.
Rina, oui.
Et que tu viens au Québec et que là, que tu rencontres le romancier Yves Thériault. Comment ces contacts-là ont pu se faire? Je dois dire que c'est assez étonnant.
Je vais dire que c'est grâce à la Deuxième Guerre mondiale.
Mm-hmm.
Ah oui. Bon? Parce que les journaux français, les revues françaises, les livres français de l'Hexagone n'entraient plus parce que les bateaux étaient coulés par les Allemands. Mm-hmm. Boum, fini. Bon. Il y a eu une maison d'édition ici, j'ai oublié le nom, qui a eu l'autorisation de Gallimard de publier
Édition
ici.
De l'arbre.
Non, c'est pas l'arbre, c'est un autre nom. De publier les écrivains français ici à Montréal.
Ouais.
Et en même temps, les journaux d'ici envoyaient leurs numéros, mm-hmm. En Haïti. Et le samedi, il y avait un, je pense que c'est le Petit Journal ou La Patrie, ou un nom comme ça, tu vois,
ouais.
qui avait une section de comics, ce qu'on appelle les comics, tu vois, à l'époque. Et il y a eu dans l'un de ces journaux un assez long article sur les jeunes écrivains canadiens-français, enfin québécois, mais canadiens-français à l'époque, c'est ce qu'on disait. Il y avait Thériault, il y avait Rina Lanier, il y avait Anne Hébert, il y avait quelqu'un d'autre, j'oublie son nom. J'ai décidé d'écrire aux deux femmes, à Anne Hébert.
Tiens, pourquoi?
À Anne Hébert et Rina Lanier. Anne Hébert n'a jamais répondu. Ce n'est pas la première fois parce que je lui avais demandé. Lanier a répondu et nous avons échangé pendant au moins 2 ou 3 ans. Et quand je suis allé aux États-Unis en 1950, j'étais à South Orange, dans le New Jersey. Je lui ai fait un petit mot disant que je suis, de l'autre côté de la frontière. Elle m'a dit, mais Anthony, je vous invite pour un week-end à Montréal. Je suis allé la voir. J'ai rencontré des gens, puis on parlait français, puis bon, parce que là-bas, c'était l'anglais. J'ai sympathisé, et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, tu vois, pour moi, ça a été, non pas le coup de foudre, mais je me suis dit, mais c'est une ville intéressante. Mais je suis retourné aux États-Unis, j'ai réfléchi, et puis j'ai décidé de, bon, c'est fini, la chimie.
Ça, c'est le moment où tu as bifurqué vers la poésie.
Je suis venu ici, j'ai retrouvé Irina, bien sûr. Je suis entré aux Beaux-Arts pour faire la sculpture. J'ai fait la céramique avec Jean Cartier à l'école du meuble. Et puis là, je travaille aussi aux Beaux-Arts, tu vois, en sculpture. Avec, j'oublie son nom. Et j'ai rencontré quelqu'un au cours de modelage qui m'a dit, mais il y a un écrivain qui s'appelle Yves Thériault, il veut écrire une série de 3 sketchs radiophoniques sur Haïti. C'était à l'époque, il voulait faire quelque chose, l'ESCO avait été renversé dans les années 44, tu vois, donc il voulait faire quelque chose parce que l'une des filles de l'ESCO apprenait le chant ici, donc bon, bref. cette dame m'amène chez Thériault. Nous avons sympathisé et Yves, c'est un gars qui a été très très généreux, c'est pas seulement avec moi, hein. Il m'a dit, mais Anthony, tu travailles? Il dit, non, j'étudie, je suis aux choses, hein. Bon, tu viens à la maison comme pensionnaire, mais tu vas faire 2 ou 3 petits travaux. Il me dit, des travaux, c'est quoi ça? Non, il dit, des travaux d'écriture. attention, tu vas pas balayer la maison. Non, non. Alors j'ai dit, bon, d'accord. Mais le premier, lui, il avait chaque semaine, chaque samedi, il apportait chez l'Espérance, l'imprimé de l'Espérance, un lot de 100 pages de nouvelles. Enfin, ça peut être 10 nouvelles de 10 pages, ou bien ça, ça dépendait. Mm-hmm. Mais c'est 100 pages, c'était $1 la page, donc il recevait 100 piastres. Il me dit, ben, tu fais ça, tu remplis ça, tu vas. Il me dit, ben, on ne peut pas avoir 100 pages, là, parce qu'il y en a qui en a, qui a. Celui-ci a 6 pages, lui, c'est 8. Il dit, ben, celui qui a 6 pages, tu la montes, tu le souffles à 8, et celui de 8, tu en fais 10. Il me dit, comment? Il me dit, mais tu gonfles.
C'était un vrai écrivain professionnel.
J'ai pris une première nouvelle, tu vois, je me sers là, je commence, bon, tu vois. Il arrive, tu dis, bon, il arrive. Bon. Il met sa main, il cherche sa cigarette, là, tu ajoutes tout ça, puis ben, tu vas à la ligne, ça fait une ligne de plus, même si c'est à la moitié, c'est une ligne de plus. Il y a eu un tas de trucs, mais quand il est revenu, moi, j'ai pleuré parce que je ne pouvais pas amener ces 8 à 10. Il m'a dit, calme-toi, tu vas voir, tu vas apprendre. À la fin, au bout de peut-être 2 semaines, je faisais ça comme ça, mon gars. Voilà. Non, mais c'était intéressant.
Donc, c'était une école d'écriture.
École d'écriture, et il m'a appris d'écriture. Quelque chose que j'allais utiliser à ma station, tu vois, que j'allais fonder en 61.
Radio Classique, là.
À Radio Classique.
Ouais.
C'est l'écriture radiophonique. Tu vois, sur scène, tu prends un paquet de cigarettes, tu dis, tu réponds. Pour la radio, il faut que je dise, tu veux une cigarette? Si tu dis oui, tu prends la cigarette, il faut que celui qui écoute entende le bruit,
bien sûr.
Ouais. Le claquement du briquet ou le craquement de l'allumette.
Tout à fait. Ouais.
Donc, c'est ça. Si tu le sais, tu le sais, mais si tu ne le sais pas, tu ne peux pas écrire pour la radio, il faut écrire pour l'oreille. Ça, je l'ai appris, et ça m'a énormément aidé, tu vois, énormément. Ça m'a permis de faire chaque semaine... d'écrire chaque semaine un sketch radiophonique d'une demi-heure que je mettais en scène.
C'est intéressant ce que tu dis, oui, écrire pour l'oreille, parce que
oui.
Sans le savoir, quand on t'entend lire tes poèmes et tout ça, il reste quelque chose de ça aussi, espèce de pratique de la voix qui est sans doute aussi cet élément d'oralité qui reste là.
Oui.
Intéressant. Je dois dire que tu as influencé Rina Lanier, en tout cas, parce qu'elle a écrit des poèmes haïtiens. Je crois que c'est dans, soit dans L'Arbre blanc, ou à la fin, il y a une section poèmes haïtiens. Tu ne savais pas?
Ah bon? Alors, non.
C'est une influence. Alors, j'aimerais qu'on aborde une autre question, parce qu'elle est, pour tout écrivain des Amériques, je pense que c'est une question qui s'est toujours posée, la question de l'identité, au confluent de plusieurs cultures, et à plus forte raison pour... les écrivains de la Caraïbe. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par un extrait de La Bélière Caraïbe qui aborde un peu cette question-là aussi, la question du rapport à l'Afrique et tout. Alors, on écoute cet extrait de La Bélière Caraïbe.
La Bélière Caraïbe. Ah oui, La Bélière Caraïbe. Mais ça, c'est... Ouais. Assise ma parole sous le pin espagnol, parasol et centenaire. J'écoute en moi remonter le passé, et les fantômes de l'histoire défilent sous les aiguilles vertes. Isabelle et Ferdinand, Séville ayant appris l'arabe devenue conquérante, Charles Quint et Philippe, Mandin, Guibaud, Taïno, Caraïbes broyés dans l'or, la sueur et le sang. Assise ma parole sous le pin centenaire, je remets à l'endroit mes guenilles et prends conscience de mon appartenance, me trouvant beau dans ma nouvelle parure, celle du vrai père tant de fois récusé. De l'autre côté de l'usure, je découvre tout un grenier du merveilleux à ciel ouvert, tout un grenier où la vraie vie se vit sans dépipée ni fausse carte. Et pourquoi donc avoir cherché ailleurs des racines inexistantes soufflées, faisant confiance aux anciens maîtres, colons ou petits blancs ou soldats du premier empire, tous trois, chassés de la scène haïtienne, mais qui ont rappliqué par le trou du souffleur. désaltérer mon poème sous le pain parasol. Je ne me ressens point fils de l'Afrique, encore moins de l'Europe cartésienne. Et je n'ai point mémoire de fond de cale ni souvenance de galions conquérants, mais d'une terre accrochée à son lieu, née dans son lit, mais d'un peuple, poussant continuellement sa fleur de très vieilles souches métisses, sans semençant sans cesse. Je lève alors mon verre à la santé du ciel, miroir où je me vois en triple, celui qui m'a vendu, celui qui m'a acheté, et celui que je suis. L'acheteur et le vendeur en moi mêlés, emprisonnés, dans la tromperie des verroteries et de la croix, clinquants et carapaces dont je m'allège au seuil de mon midi. Je romps enfin le cercle crédule des sables, et sous le pain parasol espagnol et centenaire guenise à l'endroit. Je me remets debout au seuil de mon midi, tout un présent à corriger me sollicite.
Merci, je pense que c'est un texte vraiment... Alors, c'est sûr que c'est un poème très fort, très affirmatif aussi, qui pose, je trouve, des questions intéressantes parce que, finalement, bon, à cette époque-là, il y a ces figures quand même très importantes et intimidantes que sont Aimé Césaire, Léopold Senghor, bon, ces figures centrales qui développent, bon, chacun à leur manière, le thème de la négritude. Et toi, tu arrives, tu dis « Je ne sens point fils de l'Afrique », la négation est très forte, encore moins de l'Europe cartésienne. D'accord aussi. Pourquoi ces distances-là, et notamment par rapport à l'Afrique, au moment où il y a cette revendication, en tout cas, qui se manifeste dans les Caraïbes et en Afrique également, bien sûr?
En fait, ce n'est pas une revendication, c'est une réalité. L'haïtienne n'est pas un Africain en exil en terra incognita. Le blanc n'a jamais été un Européen en exil dans le Nouveau Monde. Pourquoi lui peut devenir américain et moi je ne peux pas? Il faut qu'on me renvoie tout le temps en Afrique.
Tout à fait.
Non, je ne comprends pas. Vous savez, il y a peut-être 2 semaines, j'ai lu dans le Devoir ou la Presse, je ne sais plus lequel. C'est un je ne sais pas s'il est écrivain, c'est un Camerounais, qui dit mais, j'en ai ras-le-bol de me faire appeler africain. Il y a 50 pays en Afrique, pourquoi moi je suis Camerounais, pourquoi vous me collez cette étiquette d'Africain? Ah bon, lui il peut le dire, mais moi je ne pourrais pas le dire. Moi je ne suis pas un Africain, moi je suis un Haïtien du Nouveau Monde.
Il y a une revendication du caractère caraïbe.
Oui, non, caraïbe.
Quand tu dis je suis caribéen, bon, c'est ce qui est le corollaire d'haïtien, ça recouvre quoi exactement? Le métissage? C'est sûr qu'il y a une affirmation aussi dans ce poème-là en particulier d'un désir de présence à ce qui est. Je suis debout dans mon midi, une sorte d'actualité.
C'est le lieu de vérité de l'Amérique, parce que cette conquête est partie de là. Il y a un mot qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis que la Caraïbe est le ventre mou de l'Amérique. C'est par ce ventre mou que Christophe Colomb est entré. Et à partir, les Espagnols, ils ont commencé à massacrer les habitants d'ici et à aller découvrir le reste, le continent maintenant. Là où ils ont continué à massacrer. Voilà. Moi, je me réclame de ce lieu et depuis plusieurs années, c'est un lieu où, écoutez, en Haïti, nous parlons le créole, bien sûr, mais c'est un pays de langue française, disons les deux. À côté, c'est l'espagnol. En face, c'est la Jamaïque, c'est l'anglais. Et ici, si tu vas là, c'est Cuba, c'est encore l'espagnol. Et puis si tu continues, tu vas retrouver le français un peu plus bas dans les petites Antilles. Donc c'est un lieu où il s'est passé beaucoup de choses. Bon, les deux grandes révolutions, celle d'Haïti de 1804 qui a abouti, et celle de de Cuba, qui ont changé, je ne dirais pas la face du monde, mais la face de notre Amérique. Alors pour moi, c'est un lieu important. Beaucoup de révolutionnaires blancs de l'Amérique du Sud sont venus chercher armes, argent, bateaux, munitions en Haïti. Ouais. Le drapeau du Venezuela a été créé à Jacmel.
Ah bon?
Oui, et monsieur, comment il s'appelle, le grand le grand costaud du Venezuela actuellement là, le...
Ah, Chavez. Chavez.
Chavez, oui. Il a été en Haïti. Il a remercié le peuple haïtien, il a été à la Jamaïque pour s'incliner, pour enfin faire le pas son cinéma, mais au moins enfin remercier, quoi. Non, mais en tout cas, c'est ça. C'est pour ça que je me réclame de la Caraïbe.
Tu mentionnes ce rapport aux langues. Le créole, est-ce que ça a joué un... Comment tu t'es situé par rapport à ça dans ton écriture? Est-ce que ça a joué un rôle même indirect?
Dans mon écriture, non. Je n'ai aucun problème avec le créole, mais je dis toujours, dans la corbeille de naissance d'Haïti, il y avait, entre autres choses, une langue, je ne dirais pas parfaite, mais pratiquée internationalement et excellente. Mm-hmm. Alors pourquoi devrais-je cracher sur cet héritage? Donc j'ai continué dans le français, mais il y a aussi le fait que à la maison, le français était parlé, était pratiqué, ce qui n'est pas le cas de tout Haïti.
Non,
tu vois.
Okay. Ouais,
ouais. Le créole, j'ai rien contre. Il est enseigné depuis plusieurs années dans les écoles, mais à un certain moment, il faut bien qu'il se rabatte sur une langue, que ce soit l'anglais, le français ou l'espagnol. Là, ils prennent le français. Parce que les manuels ne sont pas écrits en créole. La physique, la chimie, la botanique, l'histoire générale, la géographie.
Oui, bien sûr.
Alors, comment faire ça? Et tous ces jeunes qui restent créolophones, quand ils sortent d'Haïti, cette langue ne sert absolument à rien. Mais non. Ils sont pris. C'est une prison. Mais c'est une belle langue. En fait, toutes les langues sont belles, n'est-ce pas?
Sans doute.
Si tu la parles, ouais, elle est belle. Si c'est ta langue de naissance, elle est belle.
Tout à fait. J'aimerais qu'on parle quand même un petit peu d'Haïti littéraire, un peu rapidement. Bon, que tu as fondé en 1961, là, avec le groupe de poètes que j'ai cité un peu plus tôt. Est-ce que vous vous définissiez, je crois que vous étiez tous un peu dans la position là, du refus d'un peu de la négritude et l'affirmation d'une identité caraïbe haïtienne. Comment ça se passait à Haïti littéraire? Est-ce que ça a été un lieu, une espèce de creuset d'écriture pour toi très important, un lieu d'inspiration? Tu m'as déjà parlé de jeux littéraires que vous pratiquez aussi,
oui.
Donc comme une sorte d'atelier d'écriture?
C'est ça. Ça a été provoqué par une rencontre entre deux ou trois individus, puis... je ne vais pas me mettre à citer des noms. Et quand on a décidé de se regrouper, tu vois, on était six. Il y en a un qui a quitté, c'est Auguste Thénor, parce qu'il a préféré faire de la politique, mais la politique est un peu sous papadoc, tu comprends, tu ne fais pas une politique ouverte. Donc,
oui,
il était dans les syndicats, etc. Bon, donc. Mais on travaillait surtout au niveau de la poésie. On voulait changer l'écriture poétique de ceux qui nous ont précédés. Qui avait c'était plutôt... c'était plutôt vieillot. C'était du romantisme, c'était attardé, c'était... Non, il y avait aussi de temps à autre des trucs sur la couleur, je suis nègre, donc je suis ceci, ou mais je suis un sale nègre, bon, ça suffit mon vieux, hein. Non, on fait de la poésie, donc... Et c'est ainsi que nous avons... En fait, les cinq qui se sont réunis, ils se sont réunis d'abord grâce au texte qu'ils avaient présenté sur la table. Ils ont dit, bon, qu'est-ce que tu as écrit depuis tout ce temps? Ils ont dit, ah voilà, on lit ça là. Alors, on s'est coopté. Mm-hmm. Bon, ça c'est bon, tu es dans la bonne voie, moi aussi, toi aussi, tu es dans la bonne voie. Et là, on a continué à travailler ensemble. Et travailler, bon, il fallait écrire. Je pense que moi, j'avais pris, ensuite, grâce à Thériault, j'avais pris cette habitude d'écrire tous les jours. Mm-hmm. Alors, je leur ai dit, écoutez, si vous êtes des écrivains ou poètes ou romanciers, hein, il faut écrire tous les jours. Puis là, on a tous écrit tous les jours. Et moi, tous les samedis, il y avait un texte de 30 minutes pour le...
Pour la radio.
Pour la radio. Mm-hmm. Et ensuite, il y en a un qui préparait 30 minutes de texte pour la poésie, tu vois. Mm-hmm. Donc, ça a été une école. Et des fois, il y en a un qui arrivait avec un lot de textes, parce que nous avons pris l'habitude, je ne sais pas pourquoi, d'écrire de longs poèmes. Mm-hmm. Pas des petits, pas des trucs courts. Non. Long poème, 4-5 pages, minimum. Oh, ouais. Bon. Alors, celui qui venait, il venait, bon, les autres étaient là, puis lui, il lisait, dit, bon, il a désaltéré mon poème sur le poème parasol, puis les autres, ils écoutent et ils écrivaient en même temps.
Ils écrivaient à partir de ça?
À partir, oui, oui. Ah, ouais. Ils ne transcrivaient pas ce qu'ils entendaient, mm-hmm. mais ce qu'ils entendaient leur permettait d'écrire. Ne serait-ce que, je ne sais pas moi, 5 ou 6 heures qui se tenaient ou pas, mais mm-hmm. quand même, c'était là. Mm-hmm. Ou, comme je t'ai dit l'autre jour, il y avait des objets qu'on déposait sur une table. La bouteille, le verre, le boîtier, le micro. Est-ce qu'on peut écrire un poème à partir de ça?
Oui,
on peut le faire. Ouais, si on veut, on peut le faire. Ça nous oblige à trouver des mots, c'est ça. La poésie, c'est comme la langue, c'est un tas de mots. Si tu connais pas les mots, tu peux pas être un poète. Donc il faut des mots. Bon.
Il me semble que tu m'as dit aussi que même par la suite et jusqu'à aujourd'hui, quand tu manques d'inspiration, tu utilises des techniques un peu comme ça, ou alors aller chercher dans une revue au hasard une phrase.
Oui, c'est moi je fais là, je vais t'expliquer comment j'écris, par exemple, poésie. Si bon, là, je viens de terminer un recueil pour ce jeune homme là-bas qui l'a accepté.
Il ne veut pas qu'on en parle.
Il ne veut pas qu'on en parle.
C'est un secret.
De Polichinelle.
Oui.
Donc, j'ai commencé, j'ai eu une image comme ça qui est arrivée. Puis bon, je mets ça sur Internet, parce que j'écris sur Internet, sur l'écran, tu vois, maintenant. Bon, je mets ça. Bon. Il y en a une deuxième qui arrive. Bon. Puis là... Je suis bloqué, collé. Bon. J'enregistre. Et je lis, pendant que je lis, il y a un mot que je trouve intéressant, tu vois. Je l'attrape. Il y a d'autres images qui arrivent, et puis peut-être au bout de 4-5 semaines, tu as j'appelle ça, c'est réserve. Mm-hmm. Réserve d'images, tu vois. Je peux avoir une réserve d'images qui a, je sais pas, une page, deux pages. Mm-hmm. Mais en lisant, je vois, ah, la première ligne, la première image, et puis ici, ah, tenez, ah, ces deux-là vont ensemble, ça aussi. Et là, tout de suite, tu as 3 ou 4 vers, 3 ou 4 images qui commencent, se tiennent, se cherchent, et finalement, tu as un début, peut-être, de poème, ou le milieu d'un poème, ou la fin d'un poème, ça, on ne sait pas. Puis après, on continue comme ça. Parce que, enfin, chacun a son secret.
Et on arrive à quelque chose de très fluide,
oui,
finalement.
Oui, on arrive à quelque chose, finalement.
Ça s'enchaîne d'une façon toute naturelle, mais...
C'est amusant.
Donc, Haïti littéraire comme école d'écriture, en tout cas, mais il y aurait sans doute plus à en dire, mais oui. J'aimerais peut-être qu'on aille dans la suite, c'est-à-dire, bon, bien sûr, ce qui a suivi assez rapidement pour des raisons politiques, c'est l'exil, pour toi et pour plusieurs autres. Et là, il me semble qu'il y a deux notions qui sont présentes chez toi. Bon, il y a l'exil comme tel, donc ce que ça peut représenter comme deuil, comme séparation, etc. Et il y a la notion de nomadisme qui est quand même très présente aussi dans ton œuvre. Et D'un côté, tu sembles revendiquer nettement ce nomadisme-là, mais de l'autre, à certains moments, je me demande s'il paraît pas un peu difficile à porter. Par exemple, dans Orchidées nègres, que tu as publié en 87, qui est un recueil magnifique où, justement, on retrouve cette espèce d'amplitude qui est si caractéristique de ta poésie, tu dis, tu cites un grand nombre de pays, de villes où, sans doute, tu es allé un peu, bon, Cordoba, Paris, etc. Et tu dis, j'en ai marre de coudre des noms sans référence et de vivre dans cet ailleurs qui me divise. Est-ce que c'est une critique du nomadisme? Parce qu'être un nomade, c'est, est-ce que c'est pas toujours être un peu ailleurs? Et est-ce que cet ailleurs-là finit pas à un moment donné par être difficile à vivre?
Non, c'est pas une critique du nomadisme. L'exil. Vous savez, j'ai passé beaucoup plus d'années ici à Montréal qu'en exil, mm-hmm. qu'à Port-au-Prince. Mm-hmm. Bon. L'exil n'est pas forcément mauvais. C'est une perte, un déchirement. On laisse des gens qu'on aime au pays. C'est également un enrichissement. La littérature haïtienne de la diaspora en est une preuve. L'exil est une blessure dont on ne guérit pas. Elle ne fait presque plus mal, mais on la sent, cette blessure. Je me pose souvent cette question à laquelle il n'y aura pas de réponse. Si j'étais resté en Haïti, que serais-je devenu? Je suis privilégié de vivre mon exil au Québec, qui est un pays très accueillant. C'est en exil que j'ai rencontré ma femme. Je suis invité à des rencontres internationales où je représente à la fois Haïti et le Québec. Au Québec, mon vocabulaire s'est enrichi de beaucoup de mots que je n'aurais jamais utilisés si j'étais resté en Haïti. Exil, neige, verglas, givre, blé, automne, bouleau, épinette. Nous parlons maintenant langage de gratte-ciel, paroles de givre et mots de neige. L'expérience du perchoir d'Haïti, au cours de laquelle des poètes haïtiens, je vais te recouper, au cours de laquelle des poètes haïtiens québécois se sont reconnus, a été enrichissante. Tu vois, donc c'est un apport, tu vois, mm-hmm. pour moi. Mm-hmm. Le Perchoir est un lieu de rendez-vous de la bohème montréalaise. Nous, poètes d'Haïti, nous avons accueilli au Perchoir d'Haïti les poètes d'ici, Miron, Chamberlain, Duguay, Péloquin, Brossard, Langevin. Miron avait baptisé le groupe la Batèche Batouk. Je ne dirais pas que cette expérience était une thérapie collective, mais plutôt une façon de renouer, pour nous autres, hein, pour les Québécois, je ne sais pas. Mais ça a été une façon de renouer avec cette habitude que nous avions de lire nos poèmes en public, en Haïti. Cela nous a permis de nous rapprocher des poètes québécois. Et l'un de mes poèmes, Présence, avait beaucoup de succès auprès des Québécoises. Et certains poètes me l'ont emprunté, je dirais même volé, pour faire leur conquête. Te voici devant moi comme un fruit mûr à point, gorgé de sève et sans défense. Il ne suffit que d'allonger la main pour s'en saisir. Je les ai entendus sur la piste du Perchoir d'Haïti murmurer ça dans l'oreille de la blonde. C'est amusant, quoi. Au moins, la poésie a servi à quelque chose.
Oh, tout à fait, tout à fait. Ça pourrait nous mener d'ailleurs à ce thème qui est évidemment très présent dans ta poésie, le thème de la femme, de l'amour, qui est tout de même dans Nomade je fus, tu dis femme de visitation, j'écris pour exaucer la fin d'un transitoire. Alors on a l'impression que la femme ici t'accorde justement un mode de présence et d'être. Ce qui me frappe, c'est que tu n'es pas un poète de l'amour douloureux, déchiré.
Ah non.
T'es vraiment, alors, par excellence, un poète de l'amour heureux.
Oui.
Est-ce que j'ai raison?
Oui, tu as parfaitement raison. Non, parce que l'amour malheureux, je vois pas comment ce thème peut servir à l'écriture d'un poème.
Ouais. Non. Pourtant, des poètes ont écrit... Ben, donc,
ouais, bon,
je ne vais pas parler trop de Miron ici, mais je pense que Miron a écrit des poèmes assez difficiles sur l'amour.
Bon.
Mais, est-ce que tu veux nous lire un extrait de le poème que je trouve magnifique, Belle?
Il pleut ce soir au goutte à goutte, une nuit d'asphodèle. Patiente quête du recto de ta présence, du nid des mots pour nos secrets inoffensifs. Au vagabondage des caresses, le chant bègue du coq. Garde la bouche ouverte sur le dieu des troupeaux, belle, son diapason ne chante qu'en clé de femme. Dorémi son sol ni château, mes nuits sont plus lucides que les canards sauvages. Quand tu dessines ta gamme, belle, et montes d'un degré, l'astuce des anolies approuve l'algèbre de ta liane. Quand tu déclines ta gamme, une porte bien éduquée m'enseigne les champs barbus du sexe. Et lorsque la tendresse devient chemin de lèvres, je m'invente chance magnétique dans la méfiance des tarots. Belle, herbe sans vanité te fais écrin, tison tes fleurs, chaumiel te moue, blé fascinant de peine nue, glaive. Au vagabondage des caresses, belle, mijotée à doux feu cannibale, à quatre pas de lune, le chant bègue du coq.
Ce qui m'émerveille toujours, c'est le pouvoir et la richesse de tes métaphores. Tu es un créateur d'images absolument extraordinaire.
Je sais pas.
Et ça, à mon avis, ça peut pas venir uniquement. Bon, on peut évidemment utiliser ce que tu disais tout à l'heure.
Ah non, non, ça c'est
faire des liens,
rabouter
des choses, le bricolage. Ouais. Mais la force de la métaphore, ouais, comme de l'image, et notamment à propos de la femme, c'est vraiment d'une richesse absolument remarquable.
Bon.
Est-ce que comme Éluard, tu penses que l'amour, la poésie, c'est indissociable ou c'est
Ben oui.
Oui.
C'est collé, ça. Et puis, l'amour et la poésie sont indissociables, car qui a-t-il d'autre à célébrer en poésie? C'est l'amour, c'est tout. La femme, l'amour, oui. C'est le ça, tu vois. Bon.
Le pays.
C'est un choix thématique qui s'est imposé. Mm-hmm. Tout naturellement, mais même quand je parlais du pays, j'écrivais des poèmes d'amour à l'intérieur de ce discours du pays, concernant le pays, Et puis, je pense que tous les poètes ont commencé par écrire des poèmes d'amour. Mm-hmm. Mon amour, femme méridienne extasiée, tu balais la nuit de ta robe d'oracle pour que nos gestes se reconnaissent. J'ai célébré la femme, entre autres, dans Orchidée Nègre.
Oui, tout à fait.
Et Immobile Voyageuse de Pica.
Oui.
Dans le recueil Femmes Amériques, c'est toutes les femmes que je chante. Les femmes fondatrices de notre Amérique métisse. L'indienne, l'asiatique, la blanche, la rouge, la noire et la métisse.
Donc,
elles sont toutes là.
Un grand éloge de la femme américaine.
Oui.
Tout à fait. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est pas notre fil conducteur est davantage du côté de la poésie, mais quand on écoute des poèmes comme ceux-là, on est frappé en même temps de voir que ton... c'est une question un peu improvisée, là, mais que ton écriture romanesque, en général, ton écriture de prose... Et pas, on pourrait penser que c'est une écriture très lyrique. Elle peut l'être, mais elle est aussi, parfois, elle peut être aussi, t'as écrit des romans qui sont vraiment des romans plutôt tournés vers l'action, où il y a aussi beaucoup d'ironie, beaucoup de... Ce rapport-là, poésie-roman, est quand même assez... t'es pas le seul poète qui écrit aussi des romans, mais il y a une tension assez grande entre les deux registres, je trouve.
C'est deux écritures différentes. Ouais.
T'es venu plus tardivement à l'écriture du roman, quand même.
Tardivement, non.
Non, pas vraiment?
Non, parce que Mon pays que voici... Mon pays que voici, non. Motif poétant, c'est... Ah, j'oublie, là.
Je suis une île?
Non. Mémoire, l'infini, mémoire quand les Mayas. Ah, oui. Et date quand même de 80, puis tu vois, il y en a que j'avais commencé en Haïti. Pour moi, j'ai un problème. J'écris, enfin, c'est pas un problème, j'écris la poésie dans la joie. Ça, c'est clair.
Ça, c'est clair, en effet.
Le roman, il faut que je me donne des coups de pied quelque part pour continuer à écrire.
Et alors, pourquoi faut-il se donner des coups de pied?
Ben, je ne sais pas, pour le plaisir de la chose, peut-être que je... Parce que des fois, les personnages nous lâchent. Tu dis Monsieur X, ou ben, disons Madame Z. Madame Z, je vous déplace ici. Elle dit, monsieur, pas question. Le canevas dit que vous devez aller là. Je ne vais pas là. Il refuse. Si je la mets là, bon, là, c'est fini. Ça. Il faut déchirer les pages. Puis c'est fini. Non, il faut la laisser là où elle est et continuer à travailler avec elle. Et, non, mais c'est totalement différent. Totalement différent. Et puis, on peut écrire 200 pages. Tant que le dernier paragraphe n'est pas écrit sur le papier, le roman n'est pas fini. Moi, je peux écrire 4 vers, 5 vers, et le petit poème, il se tient debout. C'est pas le petit poème, le poème se tient debout. Il est fini, il est complet. Alors, il faut être maso pour écrire des romans. Non, ça c'est vrai. Non, je ne sais pas comment ils font les romanciers. Il y en a qui écrivent, là, c'est des centaines et des centaines de pages. Ouais, mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi autant passer? Je suis sûr que la moitié peut être coupée.
Ça, c'est
un point de vue de poète. Parce que nous, c'est la concision.
Oui, c'est ça. Pour une dernière partie, je voudrais qu'on, avant que vous puissiez intervenir un petit peu, quand même, je suis sûr que vous voulez avoir des, vous voulez peut-être poser des questions. Je voudrais peut-être aborder le thème de la mémoire et de l'effacement de la mémoire aussi. Bon, parce que forcément, dans une position de diaspora ou d'exil, ce thème-là est forcément très important, mais aussi, il est forcément lié à l'âge, à un certain vieillissement. Et je voudrais lire, tu m'as donné l'autorisation de lire un petit texte, c'est la nouvelle plus courte.
Je me demandais ce que tu allais
Donc, la Romanité enchantée, publiée en 2000, je trouve que c'est un texte qui est très beau, sur ce qui fait une demi-page, sur le thème de la mémoire, de l'effacement de la mémoire, de la peur qu'elle s'efface définitivement. Alors, ça s'appelle « Portrait ». Pour la millième fois, avec application, son crayon crisse sur le papier. L'homme dessine son visage. Le dessin achevé, il le pose contre le mur. Alors, pour la mille et unième fois, les retailles de son passé se réveillent, s'animent sur fond de tigres et d'oiseaux, de masques et de dentelles mêlées. Mais chaque midi nouveau, tout s'efface. Les lignes, les courbes, les taches rentrent dans le néant. L'homme se redresse, s'étire, fait craquer ses phalanges entêtées, puis, un peu plus voûté, se penche de nouveau sur la surface palimpseste et dessine. Pierre, rire, plume, lune, colibri renaissent, s'entrelacent dans l'attente du même visage, ultime touche au dessin, inexorable condamnation. Si, un jour, midi, ne venait pas. C'est tout. Alors, c'est... Alors, ce texte, on peut le lire comme une fable, une allégorie, peut-être, écrite par un homme peut-être avancé en âge. Est-ce que c'est... Je ne veux pas insister lourdement sur ton âge, mais... de toute façon, j'ai donné ta date de naissance au début, donc c'est plus un secret. Mais est-ce que cette crainte de l'effacement de la mémoire, de la disparition, et aussi ce travail incessant pour la reconstruire, cette mémoire-là, c'est quelque chose qui te hante de plus en plus? J'ai l'impression, en tout cas, que dans ce texte-là, tu concentres quelque chose de très fort sur ce plan-là.
Je vais te dire une chose. J'ai écrit ce bref récit il y a bien une trentaine d'années.
Ah bon? Alors...
Mais comme tu le dis, on peut le voir comme une fable écrite par un homme avancé en âge et qui craint l'effacement de la mémoire. Comme le dit le poète Sénion Perse, grand âge, vous mentiez. Route de braise et non de cendre.
Tout à fait. En même temps, bon, alors, je termine un peu avec ça, parce que je voudrais t'entendre lire ce poème qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Magicien » ou « Quand l'écriture devient fumée ». C'est encore le thème de la disparition, de l'effacement. Mais cette fois, plutôt à travers les pertes successives et qu'on subit tous au cours de nos années, et surtout quand on dépasse la soixantaine, c'est-à-dire les deuils. Et tu as écrit un texte que je trouve magnifique sur tous ces poètes, assez nombreux. Je pense on peut les nommer d'ailleurs, mais j'ai perdu un petit peu la liste. Tu l'as alors. Qui au fil des années t'ont quitté? Et à qui tu rends hommage, à qui tu fais un salut poétique. Alors, j'aimerais bien qu'on l'entende.
Michel Beaulieu, René Bellance, Aimé Césaire, Davertige, Gilbert Langevin, Paul Larrac, Roland Morisseau, Gaston Miron, René Philoctète, Luc Racine, Auguste Ténor. Le poème s'appelle « Magicien ». Par certains soirs d'automne cuivré, les corps lumineux des poètes trépassés réapparaissent baroques, nus, limpides. Miroirs du secret des tombes, mages et magiciens de nuages, dans le verger des glaces et du pourpre, ils se cherchent un écho à leur verbe alchimiste. Étoiles solitaires dans leur insomniaque vérité, leurs mouvements désentravés négocient l'oblique virage de la parole. Par certains soirs d'automne coupant, quand la nuit à peine se défait de ses bandelettes, un souffle étrange, ébéniste, réveille les eaux dormantes des femmes. Au brusque dérobé de leurs hanches, leur rondeur impatiente se soulève, éclate, en mystérieuse extase. Par certains soirs d'automne cuivré, les corps lumineux des poètes trépassés réapparaissent, magiciens du désir, libérateurs, du chant des coquillages.
Tu veux qu'on... Alors... C'est ça. Écoutez, si maintenant vous voulez poursuivre l'échange en posant des questions, vous êtes bienvenus. Si vous voulez utiliser le micro, ça serait bien au centre pour qu'on puisse... bien ça, capté.
C'est la partie que je n'aime pas.
Bonjour, je m'appelle Philippe Guillaume. Mon père, qui était professeur de français toute sa vie, avait des amis. Mon père est arrivé ici en 1966. Et entre autres, un des amis de mon père, qui s'appelait Roland Morisseau, il était un gros tafiateur et il venait souvent à la maison lorsque j'étais petit, j'avais quoi, 7 ans, 8 ans. Et Roland Morisseau, un matin, après avoir dormi sur le sofa chez moi parce qu'il avait trop bu, de se lever et de me dire, enfin moi qui étais encore un bambin, un jour tu viendras dormir chez moi, tu dormiras et tu ronfleras comme moi. Et après... il s'est mis à parler de son ami Anthony Phelps, dont il avait écrit, des poèmes, on nous avait écrit des poèmes ensemble. Et je me rappelle l'un d'entre eux, j'en ai parlé d'ailleurs à la gouverneure générale, Michaëlle Jean, en 2006, lorsqu'elle vous a remis un prix, je crois un prix de littérature. Elle disait que parmi ses plus grands poètes, vous en étiez un, avec tous les poètes qui vous précédaient. Je parle des poètes, tous des poètes de la négritude. Aujourd'hui, je vous entends parler, puis je vous entends dire des choses telles que, bon, je ne suis pas d'Africain, je ne suis pas caribéen, enfin, je suis un caribéen, etc., ou un Américain. Mais que dites-vous de l'humanité, de l'humain comme tel? Parce que j'ai compris que vous avez ressenti, à travers ce que vous avez dit tantôt, qu'il y a une forme de scission de votre époque à aujourd'hui. Les villes n'ont plus 250 000 habitants, elles ont 3 millions d'habitants, elles ont, enfin, les gens ne se connaissent plus vraiment, les gens ne vivent plus dans un système tripolaire, ils vivent dans un système multipolaire où Facebook, Twitter, enfin, l'information vient de partout. Que croyez-vous? Ça, c'est la question. Comment voyez-vous le poète de l'avenir? À quoi ressemble-t-il?
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que mon avenir physique est presque terminé.
Mais l'âme étant immortelle, à quoi ressemble le poète du futur?
Ben, quand j'aurai atteint l'immortalité, je vous répondrai. Non, je ne sais vraiment pas comment puisse dire que le poète dans 20 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, dans 30 ans, il sera comme si. Non, je ne sais pas. Moi, ouais, le Twitter, le truc machin, je ne les utilise pas parce que je trouve que c'est... ça m'éclate, ça éclate les gens, tu vois. Ils n'arrivent pas à suivre une idée, ils suivent au moins 50 pistes. Ce ne sont plus des idées, ce sont des pistes. Et vous vivez une vie éclatée alors que la poésie, c'est plutôt la concentration, la réflexion sur soi. Non?
Ok. Dernière question. À l'heure où les rappeurs, c'est-à-dire que les gens qui font du rap ou du slam, tels que Grand Corps Malade, tels que Wyclef Jean, bon, à cette heure où les poètes sont presque dépassés par ces rappeurs qui...
Non, il ne faut pas dire le mot dépassé. je n'accepte pas ce mot. Vous voulez reprendre votre question, mais enlevez le verbe dépassé.
Le mot dépassé, en fait.
Non.
Mais à quelque part, je vais prendre l'exemple de Wyclef Jean, qui ne parle pas français et qui est haïtien. Que pensez-vous de l'avenir, quoi?
Tu reviens encore avec l'avenir. Hein. Ça te poursuit. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te raconte?
La suite,
l'avenir.
Bonjour Anthony.
Oui, alors, bonjour.
Rodney Saint-Éloi.
Je suis très content de voir, en fait, vous qui êtes tellement silencieux que Pierre Neveu arrive à vous faire parler. Ah. Et je dis vous, bien qu'on soit amis. Je suis très ému. Tony, il y a deux choses. Maintenant, je dis tu.
Ok.
Parce que je dis tu à tout ce que j'aime.
À tout ce que j'aime.
Et il y a deux choses. Je ne suis pas d'accord. Et souvent, ça m'arrive de n'être pas d'accord avec mes amis. Ah. Il y a deux points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Tu me permets de n'être pas d'accord sur ces deux points. Je vais les citer. Je trouve que le sentiment géographique dans ton œuvre est très prégnant. C'est intéressant, mon pays, que voici où tu nommes les choses. Et ça m'a beaucoup appris. Donc, j'ai appris à écrire de la poésie en lisant mon pays que voici. Et il y a un très bel hommage qu'un ami, un SPP, a rendu à Anthony. On était ensemble dans une rue de Montréal. Et il a dit, quand on était en exil à Paris, on avait dans notre chambre trois choses. Quand on avait peur, quand on avait faim, quand on avait soif, puisqu'on était en exil, on avait, nous, les Antilles, on avait trois choses. C'est une grosse photo de Fidel Castro.
Che Guevara,
c'est ça. La deuxième chose, c'était quoi?
Cahier d'un retour
au pays natal.
De César.
Et ensuite, mon pays que voici, d'Anthony Phelps. C'était un hommage extraordinaire. Donc tous les écrivains antillais avaient ces trois
objets,
icônes-là, à leur chevet, c'était ça. Et c'était vraiment... Et pour nous autres très jeunes haïtiens, donc on a appris à nommer le pays à travers mon pays que voici d'Anthony Phelps. Mais ceci dit, je suis en désaccord avec deux points, malgré ce sentiment géographique qui nous a transportés. Je suis en désaccord avec la question d'Afrique. Et récemment, je t'ai écrit en te disant qu'il y a un problème, Anthony. Il y a un problème avec la question d'Afrique qui constitue, en fait, l'identité caraïbéenne. Il y a une partie, etc. Donc, on ne peut pas évacuer simplement en disant, en fait, ce vers, tu vois, qui va te poursuivre, je pense, toute ta vie. Et je pense que c'est un petit peu très facile. comme réponse en disant « je suis, etc., je suis ci, je suis ça ». En tant qu'haïtien, je me sens quelque part donc dans une histoire. Je me sens dans une histoire et dans cette histoire-là, il n'y a pas que l'Afrique. Je ne dirais pas comme Calboir, tambour, quand tu hurles, mon âme, quand tu résonnes, mon âme hurle vers l'Afrique. Donc, il y a toute cette tradition africaniste en Haïti. Je comprends que c'est une fiction. Et Maximilien Laroche l'a bien dit, l'Afrique dont parlent les Haïtiens, c'est Haïti, puisqu'ils ne connaissent pas l'Afrique. Et même dans la négritude césarienne, toute la partie africaine, c'est une fiction, parce que les gens ne connaissent pas vraiment l'Afrique. Donc, c'est une configuration pratiquement abstraite de l'Afrique. Mais ceci dit, l'identité haïtienne, il y a une part de l'Afrique qu'on ne peut pas gommer, qu'on ne peut pas évacuer. Ça, c'est une chose. Cette part peut être 5%, 10%, mais je comprends mal un Haïtien qui dit que je ne reconnais pas l'Afrique. Ça, je comprends mal. Et la deuxième chose, Anthony, mon deuxième point de désaccord, c'est le créole. Aucune langue n'est une prison. Je ne dirai jamais à un Amérindien qui parle sa langue, votre langue est une prison. Qui va dire aux Suédois que votre langue est une prison? C'est le même, je vois pas pourquoi le Suédois n'est pas une prison, je vois pas pourquoi le Japonais n'est pas une prison. Comment je pourrais dire aux gens qui ne parlent que le créole, qui sont monolingues créoles, que vous habitez une prison? Ils sont 95%. Non, vous avez dit que le créole est une prison. J'ai noté ça. J'ai noté, vous avez dit que le créole est une prison.
Est une prison parce que pour ceux, par exemple, qui veulent voyager... Et ceux qui voyagent...
Mais les Japonais voyagent en japonais.
Ah, non. Tu ne vas pas comparer, s'il te plaît. Anthony. Restons au niveau de la réalité. Tu ne vas pas comparer le Japon avec Haïti. Mais ça suffit, Anthony.
Quand Wyclef chante
un
créole,
mais
Anthony.
Mais il parle sa langue,
Mais tout le monde, je suis arrivé en Allemagne, les gens disent, ça que passé. Parce que Wyclef chante, puisque la question de la langue, entre périphérie et centre. Anthony... Je te dis, est-ce que je peux être en désaccord?
Mais tu peux être en désaccord, mais ne compare que ceux qui peuvent être comparés.
Oui,
pas Haïti et le Japon. Voyons donc.
Mais on parle de langue, Tony.
Hein?
On parle de langue. Aucune langue, moi je dis, n'est une prison.
Comment une langue?
Aucune langue n'est une prison.
René, si je peux me permettre.
Alors explique-moi une chose. Pourquoi les Africains, là on revient aux Africains, musiciens, etc., qui vont jouer... Laisse-moi finir. Qui vont jouer à Paris, qui sont interviewés, ils parlent, ils répondent aux blancs français, aux journalistes français qui les interrogent. Les Haïtiens qui arrivent à Paris, musiciens, le français lui colle un micro sous la bouche, il ne peut pas répondre parce qu'il ne connaît pas le français. Ok ? Son créole ne lui sert à rien du tout à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai dit que le créole, pour lui, est une prison. Ok, tu me comprends bien maintenant?
Je te comprends bien, Anthony.
Voici l'exemple qui te touche. Tu le comprends? Voilà.
Je te comprends bien, mais quand Wyclef arrive à Paris, moi j'ai vu Wyclef arriver à Paris sur tapis rouge. Wyclef ne parle pas, il parle pas français.
Mais qui est,
il arrive à Paris.
T'as pas besoin besoin de parler quand tu arrives. Tu es Wyclef machin, tu t'as pas besoin de parler. Tu arrives. D'abord, il joue.
Donc la langue est pas une prison.
Quand tu fais petit
Je te donne un autre exemple, Tony. Il y a un livre superbe.
C'est suffisant.
Il y a un livre superbe de Babacar Diop qui écrit Les Fils de la Guenon. Il écrit ça en wolof. C'est son pari. C'est un grand écrivain africain qui écrit en wolof et son texte est traduit en français. Mais ça pose aucun problème, Anthony. Mais le wolof n'est pas une prison. Je ne dirai jamais que le wolof est une prison.
Tu me parles d'écriture et à un certain moment tu me parles de la parole. C'est deux choses différentes, hein. Quand tu as l'écrit, l'écrit peut être traduit. Tu parles de la traduction de l'écrit. Alors où est le problème? Mais le gars qui parle le wolof, s'il va à Paris, il va se débrouiller comment? Explique-moi. Il est emprisonné dans son wolof à Paris, en Allemagne ou en Angleterre. Tu comprends pas ce que je veux dire parce que tu es borné. Non.
Merci.
C'est un éditeur.
Parce que non, il n'accepte pas que je dise que je ne suis pas un Africain. Parce que il m'a cité plusieurs fois en tronquant. Oui, en tronquant. Non, c'est pas élégant, mon vieux. C'est pas élégant.
Je voudrais quand même dire une chose là-dessus. Il y a eu le même débat au Québec
quand il y a eu tout un courant d'affirmation, on le sait, dans les années 60 et surtout 70, d'affirmation d'une langue québécoise qui aurait été vraiment distincte, qui se serait différenciée de plus en plus du français au point de devenir une langue vraiment autonome. Et le grand argument de Gaston Miron, mais de plusieurs autres, c'était précisément que ça serait une langue qui nous isolerait, qui nous ferait en sorte qu'on irait dans le monde et que... Bon, alors, cet argument... Je suis d'accord, c'est vrai que dire qu'une langue est une prison, une prison, c'est, ça fait très négatif, mais les Autochtones du Canada et du Québec ont le même problème aussi. Quand il y a peu de locuteurs dans une langue, c'est un peu, d'une certaine façon, une prison, c'est-à-dire qu'au sens où ça rend les communications forcément...
Tu vois, en Haïti, ils vont être obligés d'avoir une deuxième langue. Ils vont être obligés de choisir entre le français, l'anglais et l'espagnol d'ici peut-être une dizaine ou quinzaine d'années pour pouvoir fonctionner internationalement et quitter le pays et se faire reprendre ailleurs.
Mais voilà, c'est déjà intéressant fils voulait tuer le père. C'est très freudien, mais c'est très très bien. C'est élégant même la chose. Alors voilà, entre Senghor et Césaire, on est tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec Monsieur Phelps sur la question de la négritude. Déjà même entre Senghor et Césaire, il y avait justement cette petite polémique toute timide. Est-ce qu'il y a un nègre d'essence, Senghor qui voulait justement qu'il y ait un nègre d'Afrique? Comme tout nègre serait issu de la culture africaine, entendons par là un continent, que ça veut dire africain. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Phelps. On n'est pas nègre parce qu'on est d'Afrique. Est-ce qu'on peut appartenir à l'Afrique par une culture? Voilà donc ce que Césaire voulait surtout défendre. C'est-à-dire qu'on appartient, ne serait-ce que par culture de métissage, on a une part d'Afrique, mais du coup, peut-on s'appeler africain? Non, je suis d'accord avec Monsieur Phelps dans ce sens-là. Alors du coup, pour le créole, ben oui, le créole demeure une langue du senti, c'est une langue purement territoriale qui va, d'ailleurs on l'appelle vernaculaire, c'est fait pour dire un certain nombre de choses que maman nous a transmises, ces choses, ou papa autrement. Mais le français demeure, hélas, aujourd'hui on est en train de voir cette dynamique entre ces artistes, ces stars qui se réclament de la langue anglaise parce qu'ils refusent de parler le français, parce que le français est une langue trop rationnelle qui a toujours été reléguée au second plan, et la langue, ils voient dans le français la France, alors qu'une langue sérieuse est toujours déterritorialisée. Je pense pas quand l'Américain parle anglais, il pense à l'Angleterre, pas plus que le Québécois, lorsqu'il parle le français, il pense la France. On parle une langue de par l'histoire, justement, qu'elle a parcouru, l'héritage dont Monsieur Phelps a fait mention. Et en Haïti, nos livres, enfin nos manuels scolaires sont écrits en français. Nous avons fait nos 14 ans d'études dans la langue française. Je vois pourquoi certains amis se fâchent du fait d'entendre le poète dire que oui, c'est une langue qui en vérité est une prison. Et c'est vrai, moi j'ai écouté monsieur Wyclef, d'ailleurs, contre qui j'ai écrit un article qui est piqué par son populisme machin, qui arrive à Paris, en fait, pas plus qu'au Québec aussi, il n'a pas pu répondre une question dans la langue française. Il a même dit que avec lui, justement, ce sera l'anglais et le créole. Et c'est vrai, aujourd'hui, on va dire, tiens, les Haïtiens d'Haïti parlent le créole parce que certains sont analphabètes. Mais attends, quelqu'un qui est analphabète en créole ne l'est aussi en français. Ou quelqu'un qui est analphabète en français ne l'est pas moins en créole. On est analphabète, point. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est l'éducation. Et le français a toujours été, oui, la langue, justement, du peuple haïtien, et c'est pas une question de France. Et le poète, je vous salue, je vous aime et je vous ai lu depuis, voilà. D'ailleurs, même, vous êtes le premier poète et écrivain haïtien que j'ai rencontré il y a 10 ans à mon arrivée ici. Vous souvenez-vous. Je vous ai appelé un matin, vous êtes venu me rencontrer au café La Brûlerie, et c'était justement mon chant d'honneur.
Merci.
Bon, alors écoutez, je crois qu'on va conclure ici cette rencontre qui s'est diablement animée vers la fin. ça peut se poursuivre de façon plus informelle. Je termine peut-être en citant ce vers du dernier poème qu'Anthony a lu. Parlant de ses poètes, c'est des poètes disparus, ils se cherchent un écho à leur verbe alchimiste. Mais je pense que c'est important aussi que les poètes vivants trouvent cet écho-là. Et il me semble que Anthony, tu trouves cet écho grâce à ta voix. Et on continue à t'accompagner dans ta démarche.
Merci, Pierre,
et tu publies beaucoup encore. Donc je vois un recueil à venir, Bon Arroi, etc. Alors c'est vraiment très bien. Alors on te remercie très chaleureusement.
Merci, mon Dieu.
Et merci à vous tous pour votre écoute.